Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, deux Elisabeth, Elisabeth Philippe et Elisabeth Franck Dumas, la rencontre. Elles se font face ce soir à notre sommaire Comme l'ombre qui s'en va d'Antonio Muñoz Molina, Au seuil et Double nationalité de Nina Yargekov chez POL. Nous évoquerons aussi plus rapidement Histoire de Knut de Yoko Tawada chez Verdier et Le motel du voyeur de Gay Talese, j'ai envie de dire. Édition du sous-sol. On prononce comme ça, Elisabeth Franck Dumas ?
Talese.
C'est si rare.
Bon, vers 21h20, on retrouvera Lucille Como. Prononce à peu près comme ça, je crois, sinon elle me reprendra, dans le petit salon dans lequel elle nous conduira pour débattre avec elle d'un sujet dans l'actualité culturelle, et puis bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Last Water War, Ruins of a Future, d'Emeric Louisset, à découvrir jusqu'au 4 décembre à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau roman d'Antonio Muñoz Molina, Comme l'ombre qui s'en va, publié au Seuil dans une traduction de Philippe Bataillon. Born to lose, I've lived my life in vain. Every dream has only brought me pain. All my life I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing you. Born to lose, it seems so hard to bear. Pourquoi ? L'écrivain espagnol est donc retourné à Lisbonne, où il était venu en 1987. Et c'était à l'époque imprégné de la ville pour ce qui allait lui permettre d'écrire son deuxième roman, L'hiver à Lisbonne. Et Antonio Muñoz Molina a découvert que l'assassin de Martin Luther King, James Earl Ray, a été lui aussi passé par Lisbonne alors qu'il sillonnait le monde pour échapper à la police. C'était en 68. Et donc Molina s'est intéressé à cette trajectoire, et donc il nous propose une double quête ou une double enquête pour mieux approcher la figure de cet assassin en retournant sur les différents lieux que celui-ci a emprunté, mais ça fait aussi remonter forcément ses propres souvenirs lorsqu'il était un jeune écrivain. Donc, en étant sur les traces de Ray, il est évidemment aussi sur les traces de son propre fantôme. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Elisabeth Franck Dumas ?
Oui, en tout cas, il fait surgir beaucoup de spectres, spectres magnifiques. C'est très certainement, le livre avance avec ce mouvement binaire. Il y a évidemment la trajectoire de James Earl Grey, sa cavale.
Earl Grey,
c'est le T, pardon, j'aurais dû en prendre un avant de venir, ça m'aurait évité ce lapsus. Donc, il mélange change je vais l'appeler Snade de son faux nom. Voilà, parce qu'il l'un de ses faux noms, il était à Lisbonne sous un nom d'emprunt. Il mêle cette cavale à sa propre, il y a ce mouvement là à sa propre quête. Jadis on mêle le polar, qui n'en est pas un d'ailleurs puisqu'on sait ce qui va se passer, mais qui est quand même haletant, au roman d'apprentissage, qui n'en est pas vraiment un non plus, puisque le narrateur a 60 ans. Et je dois dire que quand j'avais lu des descriptions du livre, je me disais, oulala, ça me semblait un peu tiré par les cheveux, cette binarité, et je voyais pas très bien comment ça allait fonctionner. Et en fait, c'est un livre magnifique parce que c'est parce qu'il arrive en mêlant ces deux trames, d'ailleurs en dédiant à chaque fois un chapitre à l'une et un chapitre à l'autre, à faire un roman qui est une très puissante méditation sur le passage du temps, sur l'épaisseur de la vie, sur le rôle de l'écriture, de la fiction, qui est vraiment superbe. Alors donc cet écrivain qui ressemble beaucoup à Munoz Molina, le narrateur, raconte la cavale, les journées passées à Lisbonne, on traîne dans les hôtels glauques, les bars miteux, les soirées avec les prostituées, et puis il y a des retours en arrière sur toute la vie de cet homme issu du white trash américain, et pour tenter d'expliquer comment il a pu en venir à vouloir assassiner Martin Luther King. Et puis ses propres souvenirs de jeune écrivain, sa jeunesse à Grenade, où il est un fonctionnaire administratif qui s'ennuie un peu, qui se sent à l'étroit, qui passe ses nuits dans les boîtes de jazz, qui délaisse sa femme et sa famille. Et petit à petit, alors qu'on avance dans le livre, je veux dire qu'on avance assez vite parce que c'est très rythmé, surtout la partie polar, je dirais. Et bien, donc, des parallèles se dessinent non seulement entre le jeune romancier qu'il a été, qui partait chercher son deuxième roman à Lisbonne, et puis le romancier qu'il est devenu, qui part sur les traces de l'assassin, mais un autre parallèle un peu plus ahurissant et qui donne vraiment toute sa saveur au livre, qui est le parallèle entre l'assassin romancier qui s'invente des vies, qui modèle son comportement sur des héros de romans de gare, sur James Bond, qui s'imagine des vies, qui va même écrire sa vie imaginaire, et le romancier lui-même, le narrateur. Et au début, vous me direz votre sentiment, mais je trouve qu'au début, on est vraiment rivé aux chapitres qui sont consacrés à James Earl Ray, parce qu'ils sont plus haletants et que ça, il y a une ampleur qui se déploie, je dirais, un peu plus lentement pour le narrateur. C'est beau, mais c'est moins. Et au fil du livre, le narrateur prend de plus en plus d'ampleur, le narrateur écrivain, d'épaisseur, grâce à un magnifique travail de vérité, de retour sur lui-même, de retour sur ce qu'il a pu être, ce qu'il a été jeune romancier, sur ses regrets, ses erreurs, également sur la manière dont il travaille, dont il écrit, dont il s'inspire de la fiction. Et lui prend une ampleur folle qui en vient à écraser, je trouve, ou à réduire le personnage de James Earl Ray, à tel point qu'à la fin, c'est vraiment quelque chose d'assez saisissant, les versions successives que l'assassin a écrites de sa vie, en inventant dans un délire paranoïaque et complotiste des versions de sa vie, sont évidemment très creuse et malade comparée à ce qu'a pu faire de ce matériau-là l'écrivain. Et donc, c'est une démonstration de ce que c'est que d'écrire, de ce que c'est que d'inventer, de ce que c'est que de faire de la fiction, de se servir du réel pour élaborer la fiction. Et voilà, quelques semaines, on parlait très récemment de Ben Lerner, jeune romancier contemporain, qui disait à quoi ça sert de faire de la fiction aujourd'hui.
Mais là, c'était son deuxième roman pour de bon.
Rattrapé par le réel, oui, mais la question se pose aujourd'hui. Ben justement, on fait ça, c'est une réponse magistrale, on se plonge dans la conscience des autres pour revenir vers soi, on mêle l'histoire avec un H majuscule avec l'histoire personnelle, et je laisse la parole à l'autre Elisabeth, car j'ai
Elisabeth Philippe qui opine beaucoup, je crains qu'il y ait guerre de discussion.
En effet, parce que bon, déjà, Antonio Muñoz Molina, c'est un auteur que j'aime depuis très longtemps, depuis Pleine Lune. L'un de ses derniers textes, dans La Grande Nuit des Temps, était également magnifique et donnait déjà la mesure, cet art de la construction qui est celui d'Antonio Muñoz Molina, qui sait tisser des intrigues avec une habileté fascinante. C'est des intrigues à la fois complexes et fluides. Et d'ailleurs, ce qui est génial dans ce roman, c'est qu'on a à la fois le roman et le making-of du roman. Donc, il y a vraiment la fabrique de l'écriture et énormément de réflexions sur la littérature, sur l'acte créatif. Et il fait fait tout un parallèle notamment avec le jazz. Mmh. Et il a cette phrase pour expliquer comment il construit, il tisse justement ses intrigues, comment il les imbrique. Je pense que c'est une phrase assez éclairante par rapport à son écriture, je la cite. C'est ainsi que je souhaitais entendre résonner ce que j'écrivais, ce que je voulais écrire, avec une impulsion puissante, mais sans savoir où j'allais, parfois en ligne droite, parfois en me laissant entraîner dans des détours où je semblais me perdre, où je trouvais un trésor inattendu. Et c'est exactement l'expérience du lecteur. Savoir que on passe aussi par ces détours, on sait pas toujours où on va aller, et puis on tombe sur des trésors inattendus, puisque la binarité dont vous parliez n'est jamais artificielle. C'est aussi le tour de force du roman. C'est-à-dire que c'est ce parallélisme entre l'écrivain et l'assassin de Martin Luther King fonctionne toujours. Certes, il y a Lisbonne qui lit les deux personnages. Il y a ce que vous disiez, Elisabeth, l'écriture. Donc chacun écrit. Chacun a une passion pour le roman d'espionnage. L'écrivain lui-même a l'impression d'être un infiltré dans l'écriture, un fonctionnaire infiltré dans l'écriture et inversement, un écrivain infiltré dans la fonction publique. Non, pour moi, c'est vraiment un livre magnifique. Énormément de réflexions, donc comme je disais, sur la création. Il y a un flot de références, que ce soit au cinéma, il parle de La Nuit de l'Iguane, de Casablanca, à la littérature, des pages magnifiques et très intelligentes sur Flaubert, sur ce que c'est qu'une fin, notamment en rappelant que Madame Bovary, dans l'esprit de tous, Madame Bovary s'arrête au suicide d'Emma Bovary. Or, non, le livre continue. Et si j'avais une petite réserve à faire sur le roman, ce serait justement la fin qui s'étire, mais même ça, il le justifie. C'est la grande prouesse, c'est-à-dire qu'il explique, il y a plusieurs paragraphes qui commencent par ce que ce doit être une fin dans un roman, une fin dans un film. Donc, il y a, je sais pas, 3-4 paragraphes qui commencent par ça, par une espèce de petite explication théorique de ce que doit être une fin, et il explique que celle de l'assassin de Martin Luther King n'est pas possible puisqu'elle s'effiloche. Et on a cette impression d'effilochement aussi dans le roman. Donc, ce qui pourrait être une faiblesse du roman, il arrive comme s'il en avait conscience, comme s'il était dans une surconscience de son écriture, à la justifier et à nous la rendre finalement intelligible et intelligente. Enfin, c'est prodigieux.
Ouais. Et puis, sur la fin... Vous avez
Franck Dumas, je vous en prie.
Non, mais sur la fin, on ne l'a pas dit, mais il y a quelque chose qu'on attend aussi pendant tout le livre, c'est qu'il parle de Martin Luther King. Et justement, le moment où il le fait et la fin, il lui offre à lui, la fin lui appartient, les dernières lignes sont pour lui. Et au contraire, moi, j'ai trouvé cette fin absolument magnifique parce que, voilà, il y a 400 pages, il y a je ne sais plus combien de pages, et on se dit, bon, à quel moment quand même est-ce qu'il parle pas de cette autre personne quand même, autrement plus admirable, pleine de contradictions et complexe, et ça arrive, et ce sont des pages extraordinaires, et que ça se termine sur lui, et même sur sa maîtresse, oubliée, un autre spectre qui fait surgir du passé, moi ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée.
Non, mais sur ces fins et ces questions des fins, moi je pense que c'est absolument maîtrisé de bout en bout et que vous dites il justifie ces choses-là. Je crois qu'il les, enfin, je sais pas dans sa tête, hein, ni dans son atelier d'écriture, mais dans sa table d'écriture, j'ai l'impression que tout ça est parfaitement maîtrisé par Munoz Molina, qu'il nous fait vivre cette expérience et y compris de nous dire ah oui, il se rattrape lui-même. Mais je pense que ça fait partie de son
procédé. Oui, mais là je faisais vraiment part de mon expérience de lectrice et voilà, c'est exactement ce que vous dites. Je pense que tout ça est pensé, je parlais de surconscience, mais il est vrai que il y a un moment avant la fin superbe, je suis d'accord avec vous Elisabeth, sur Martin Luther King, on se dit, on est un peu dans une redondance, mais voilà, tout ça est maîtrisé, tout ça est voulu,
d'autant mieux et
tout à fait, et en plus cette fin sur Martin Luther King donne une actualité au livre évidemment essentielle, ça résonne avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, Black Lives Matter, pas un jour ne passe sans qu'il y ait l'assassinat d'un afro-américain, donc ce livre est une espèce de roman total et la maîtrise d'un écrivain, enfin chaque livre il va un peu plus loin je trouve dans son art.
À se demander ce qu'il peut faire après celui-là, mais bon, c'est le problème des grands écrivains que de pouvoir toujours nous surprendre, parce que effectivement, alors je sais pas d'ailleurs, vous avez dit beaucoup de choses sur ce livre-là, peut-être revenir sur d'autres livres d'Antonio Munoz Molina, parce que est-ce que c'est celui-là finalement qui serait peut-être le premier à conseiller à quelqu'un qui n'aurait jamais lu Munoz Molina? On peut entrer par là. Alors certes, on a un écrivain dans sa très grande maturité, je crois qu'il y a une douzaine de romans, quelque chose comme ça, j'ai pas le chiffre en tête.
Moi je trouve que si on l'a jamais lu, justement ce mélange d'actualité, enfin il y a quelque chose de très caractéristique qui est la manière dont il arrive à imbriquer tous ses fils, et je dirais que si ça plaît, enfin je vois pas comment ça pourrait ne pas plaire d'ailleurs, c'est voilà, on peut dire à quelqu'un si ça, ça te plaît, tu peux lire les autres. Mais en plus de ça, je pense que le rapport à l'actualité, le rapport au passé aussi, qui est un où on en parlera pas mal, je pense, avec l'autre livre également. Mais je pense qu'on est dans un moment d'amnésie ou de problème de rapport vis-à-vis du passé. Et dans ce livre-là, c'est un autre aspect, on en a moins parlé, mais du rapport à l'histoire qui est vraiment très contemporain, justement, qui est génial. Donc moi, pourquoi pas
ouais, pourquoi pas. C'est vrai, je pense que c'est un livre qui synthétise aussi tous ces thèmes, où ça, encore une fois, la maîtrise de son style, la maîtrise de son écriture et de cet art de la construction, vraiment, j'insiste, est à son apogée, je pense. Donc oui, ça peut être une bonne façon de. Mais on s'est abordé Antonio Muñoz Molina par le meilleur. Comme
oui,
ça,
mais
quitte
ça,
à être déçu après.
Moi, j'ai pensé aussi beaucoup. J'ai oublié son titre. C'est pour le coup, ça tombe mal. Mais au dernier livre d'Antonio Lobo Antunes, qui est aussi d'une construction d'une. Enfin, pour moi, d'un brio et d'une précision absolument diabolique, qui mêle aussi. Ça fait très longtemps qu'il fait ça. Les destins, les histoires, les strates du passé, du présent. Vous allez me rappeler le titre de ce dernier livre en date? Non, c'est aux éditions Christian Bourgois. Toujours Antonio Lobo Antunes. C'était pas une conne que je vous posais, mais c'est pas mal d'aborder les écrivains par leur dernière œuvre en date, certes, mais par un moment de maturité telle, de maîtrise telle de leur art que voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée.
Oui, et puis en plus, enfin, il y a à chaque moment, et je pense que c'est absolument pas là pour le coup démonstratif, mais à chaque moment, il y a quand même une telle assurance dans le style. On n'a même pas parlé du style. Il y a des images sublimes au tout début du livre. Il parle de la sonde qui se pose sur le ventre de sa femme enceinte, et il parle de la. Je crois que c'était la planète, enfin la courbe planétaire d'un ventre de femme enceinte avec une sonde qui se pose. Enfin, il y a des images, voilà, à toutes les sur des scènes qui n'ont finalement pas grand intérêt. À chaque fois, il y a des images magnifiques et je trouve qui ont une assurance. Il y a une assurance. On ne sent même pas le travail alors que ça a dû demander un travail phénoménal. Enfin, il parle même du travail que ça lui a demandé.
Oui, parce que l'impression d'une grande fluidité qui est portée, comme souvent dans les livres d'Antonio Muñoz Molina, on est dans une forme d'errance, de vagabondage et quelque chose d'un peu somnambulique et en même temps très maîtrisé. Et ça, je crois que c'est vraiment ce mélange comme ça de fluidité, encore une fois, et de complexité qui donne aussi sa force à ce livre et qui nous emporte complètement. On se laisse aussi, on vagabonde avec lui, on erre et encore une fois on prend ses détours, ses chemins et avec cette Lisbonne un peu labyrinthique qui est à la fois une prison et en même temps un lieu de renouveau puisque dans ses destinées parallèles, Lisbonne pour l'assassin de Martin Luther King, ça marque la fin de sa cavale et pour l'auteur, le renouveau de son travail d'écrivain.
Mais souligner le travail de traduction de Philippe Bataillon, qui n'est pas pour rien dans la réussite de ce livre, comme nous le lisons, c'est-à-dire en français. Ça s'appelle « Comme l'ombre qui s'en va », c'est Antonio Muñoz Molina qui l'a écrit, c'est publié donc en France, aux éditions du Seuil.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Nina Yargakov, mais aussi de Yoko Tawada et de Gaëta Lazy. Avant cela, nous suivons Lucille Como dans le Petit Salon. Et après les lettres, les chiffres, ce soir, Lucille Gomo.
C'est ça, beaucoup de chiffres dans ma chronique ce soir. Il y a quelques jours, l'écrivain Valentine Gobi publiait dans La Croix une chronique en forme de tribune dont la première phrase est « Les écrivains sont homo economicus ». Valentine Gobi a été pendant plusieurs années à la tête du Conseil permanent des écrivains, un rassemblement de syndicats et d'associations. On en avait entendu parler en particulier lors de l'ouverture du Salon du Livre 2015, c'était assez inédit, lorsque plusieurs centaines d'auteurs avaient manifesté sous sa bannière porte de Versailles pour faire entendre leur détresse. Car oui, les écrivains sont pauvres et surtout de plus en plus pauvres. Mediapart publiait en mars dernier une enquête sur leurs revenus, une enquête émanant de l'IREC. L'IREC, c'est une caisse de retraite complémentaire pour les artistes. Et cette enquête portait sur plus de 115 000 cotisants entre 1995 et 2013. La courbe graphique, je l'ai à côté de moi, est impressionnante. Elle dégringole littéralement. Les revenus moyens des auteurs ont baissé de près de 30% en une vingtaine d'années. Effrayant quand on considère considère que les artistes concernés par ces chiffres sont ceux qui gagnent suffisamment de droits d'auteur pour bénéficier de prestations sociales, des privilégiés en quelque sorte. Alors parlons-en des droits d'auteur. Dans sa chronique, Valentine Gobi écrit qu'un auteur jeunesse reçoit 6 à 8% du prix de vente du livre, soit 80 centimes par exemple pour un livre qui coûte 10 euros. Pour un auteur de littérature dit adulte, c'est 8 à 10%, soit guère plus. La plupart des écrivains ne sont donc pas écrivains de métier. Quand ils n'ont pas carrément un autre travail, ils multiplient les activités dites paralittéraires, qui consistent le plus souvent en des ateliers d'écriture ou d'intervention en milieu scolaire. Dans le système français, les écrivains sont vraiment le parent pauvre du marché éditorial et l'évolution de ce marché est catastrophique. On commente souvent l'augmentation tous les ans du nombre de nouveautés lors des rentrées littéraires. En 10 ans, le nombre de livres publiés a plus que doublé. Les lecteurs sont certes plus nombreux, mais pas assez pour absorber cette énorme quantité de livres dont certains se perdent dans la nature. J'ai écrit hier à une amie qui a publié en 2012 un premier roman chez Flammarion. Depuis, elle a touché l'équivalent de 3 SMIC, m'a-t-elle dit, en droit d'auteur, auquel il faut ajouter 2 milliers d'euros d'avaloir. Elle va publier dans quelques jours un second ouvrage, qui est plutôt répertorié sciences humaines aux presses universitaires de France, et là, même pas d'avaloir. Elle est par ailleurs prof, comme un certain nombre de gens qui écrivent, et pour elle, l'écriture ne peut être qu'un hobby, m'a-t-elle dit. La question est-ce que c'est grave que l'écriture soit un hobby, ou est-ce que ça nuit à la littérature ?
Vaste question, Lucille, que vous posez là ce soir. Elisabeth Philippe, premier élément de réponse.
C'est pas un phénomène nouveau. Sur la question que vous posez, Lucille, il y avait Bernard Lahire qui a écrit un très grand livre. Une étude sociologique.
Conviction littéraire.
Exactement, sur la conviction littéraire.
Écrivain en région Rhône-Alpes.
Il me semble, oui. Et c'est vrai que moi j'avais fait une enquête en 2014 sur la rémunération des écrivains, et déjà évidemment on parlait de la paupérisation et de la précarisation constante des auteurs. Andrew Wiley, le fameux agent américain, avait mis le feu aux poudres en évoquant le fait que les auteurs français étaient mal payés. C'était donc normal qu'ils aient affaire à un agent. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les inégalités en fait s'accroissent entre auteurs. C'est-à-dire que vous parliez des droits d'auteur de 8 à 10%, mais quand un auteur vend beaucoup, ça peut aller jusqu'à 18%. Jean d'Ormesson est surnommé Monsieur 18%. Donc, ceux qui vendent plus sont payés plus. Enfin, voilà, on est vraiment dans un creusement des inégalités, qui reflète finalement ce qui se passe dans tous les autres domaines. Mais donc, c'est pas une nouveauté, mais ça s'aggrave.
Et Mediapart précisait dans l'article, et c'est vrai, j'ai pas eu la clé de cette précision-là, que c'était plus encore les femmes écrivains qui étaient de plus en plus paupérisées. Alors, pourquoi ça? On n'a pas de réponse dans l'enquête. Mais...
Bon,
c'est en fait.
Elisabeth Franck Dumas.
Je crois qu'il y en a plus aussi. Non, j'avais lu. Alors au moment de l'enquête Mediapart, il y avait eu une énorme étude du CNIL qui revenait sur 30 années. Alors c'était les auteurs en général, c'est-à-dire qu'il y avait aussi auteurs de scénarios. Enfin,
qui vivent de leur plume.
Voilà, exactement.
Qui souhaiteraient vivre de leur plume.
Donc là, on parle de quelque chose d'un peu différent. Enfin, les chiffres, je crois qu'il y avait, c'était à peu près, je crois, 6000 personnes qui vivaient de leur plume, en littérature, disons, en excluant tout ce qui était scénario, etc. Et eux-mêmes touchaient 1,15 fois le SMIC. C'est-à-dire un SMIC, 1,15, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois que vous avez souligné un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent, donc chaque livre se vend fatalement à moins d'exemplaires. Enfin, il y a une concentration pour les best-sellers, et puis je dirais que dans l'enveloppe lambda du lecteur, il reste pas énormément d'argent, et il faut dépenser cet argent sur de plus en plus de livres. Donc je crois que les chiffres répertoriés en mars dernier, c'était des livres qui se vendaient jadis à autour de 3000 exemplaires, voilà, des auteurs inconnus qui pouvaient espérer vendre 3000 exemplaires, aujourd'hui on vend 400. Puis les auteurs un petit peu plus reconnus sont passés de 8000 à 1000. Donc là on ne peut pas vivre avec ses droits d'auteur.
Il y a plus de place en fait pour la littérature dite du milieu. Le cinéma du milieu. Ouais. C'est vraiment le sablier, la structure économique de l'édition. Maintenant tout est concentration sur les best-sellers et puis au milieu, il n'y a plus grand-chose.
Il y a ce phénomène de variable d'ajustement. C'est-à-dire que chaque écrivain vient au sein d'une maison d'édition pour compenser les mauvaises ventes des autres. Enfin, il y a une répartition des risques comme ça qui fait que, qui revient à peser sur les épaules des écrivains.
Lucille, comment ?
La question que je me posais, c'était, au-delà de la question du statut d'écrivain, du coup, est-ce que c'est un métier ou non, c'est cette précarisation des gens qui écrivent, est-ce que ça se ressent, est-ce que c'est reflété dans la manière d'écrire ou dans les sujets abordés ou dans le style ? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui...
Je crois que c'était Slate qui avait fait une infographie sur les professions des personnages des romans, de la littérature, enfin des romans français. Oui. Et non, si on se fiait à cette infographie-là, il n'y avait pas forcément un reflet de la précarité des auteurs dans leurs personnages. Après, ça veut rien dire. Mais je ne sais pas de quelle manière ça pourrait se refléter dans les thèmes abordés, dans bon, la plus. Je crois que le type de personnage qui revenait le plus souvent, c'était celui de l'écrivain. Donc, à partir de là, est-ce que l'écrivain dépeint dans les romans est particulièrement précaire ? Ça, j'ai pas assez de recul pour.
Après, ce qui serait intéressant, c'est de demander aux écrivains si pour eux c'est un problème ou non d'avoir une deuxième profession, par exemple. Il y a beaucoup d'écrivains qui vous expliquent que non, enfin qui sont contents de faire autre chose, soit parce qu'ils ont un sentiment d'illégitimité, même des écrivains extrêmement reconnus d'ailleurs, qui pourraient totalement ne vivre que de leur plume, ont du mal à se dire qu'ils ne sont qu'écrivains, entre guillemets, je vois pas pourquoi le que, mais enfin, il y a quelque chose d'un petit peu insécurisant et qui, ou simplement qu'ils apprécient je sais pas, un contact avec d'autres plutôt qu'une vie extrêmement solitaire. Enfin, je pense que ça serait intéressant de leur demander. Voilà, c'est une obligation, mais pour certains, ça n'est pas qu'une contrainte.
Et au niveau financier, ce qui avait changé aussi, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier, c'est que le Centre national du livre a vraiment exigé que les auteurs qui se déplacent dans les salons, pour faire des signatures, etc., touchent une rémunération.
Exactement. Ça, c'est quand même. Il y avait eu une petite opposition, et je crois que c'est maintenant un minimum de 300 euros par intervention. Donc, ça peut aussi expliquer, c'est pas rien, et ça peut expliquer cette multiplication.
C'est la moindre des choses.
Bien sûr, parce que c'est un travail.
Mais ça n'existait pas ou peu.
C'était peu reconnu.
C'est les plus vendeurs avaient forcément un peu d'argent.
Exactement. D'autant qu'on n'est plus dans la simple signature. De plus en plus, ce sont des vraies performances, des lectures, tout ce qui se passe par exemple à la Maison de la Poésie. Donc, il y a une véritable recréation qui, évidemment, mérite salaire, un vrai travail. Donc oui, ça, c'est plus que normal. C'est la moindre des choses.
Oui, mais enfin, il a fallu vraiment taper du poing sur la table et menacer un petit peu quand même.
Et puis tous ces lieux, enfin, toutes ces villes qui bénéficient, voilà, du tourisme, enfin, des gens, évidemment, venus, que ça draine, qui viennent assister à ces conférences, ça me semble absolument normal que la personne qui est à l'origine de toute cette construction, qui est l'écrivain, soit rémunérée pour sa présence.
Ça, c'est un changement positif, mais c'est aussi lié à l'extrême précarité et la précarisation de plus en plus grande qui rend d'autant plus nécessaire ce type de défraiement. D'autres éléments là-dessus?
Non, mais je me posais aussi la question de la différence des droits d'auteur entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Bon, c'est un autre problème, mais c'est vrai que le contraste est saisissant et je ne comprends pas à quoi ça tient.
Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Entre 6 et 10%.
Comparer les chiffres, je ne sais pas.
Bon.
Je ne sais pas.
À suivre pour un prochain petit salon, Lucille Comeau, un focus sur la littérature jeunesse et ses moyens économiques, du travail. Encore pour vous. Et c'est l'heure, à présent, des recommandations des critiques présentes ce soir pour faire vendre plus d'exemplaires avec certains auteurs. Si on commençait par Yoko Tawada, édité chez Verdier, Elisabeth Franck Dumas, nouveau livre Histoire de Knut.
Oui, Yoko Tawada, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette écrivaine. C'est une écrivaine japonaise établie en Allemagne qui écrit en allemand et en japonais. Ce livre-là a été traduit de l'allemand. Je le souligne parce que je pense que le sentiment d'étrangèreté, qui est un des thèmes du livre, est lié sans doute au parcours de l'auteur. Alors, l'histoire de Knut, en fait, le titre est un peu trompeur parce que c'est l'histoire de Knut, de sa mère et de sa grand-mère. Et qui est Knut ? C'est un ourson, c'est un petit ours blanc. Je ne vais pas dire ours polaire parce que le livre le souligne. Hélas, aujourd'hui, dans les zoos européens, rares sont les ours qui ont vu le cercle polaire et qui auront la chance d'y mettre un jour une patte. Alors, Knut a existé, peut-être que vous en avez entendu parler. Oui, Lucille Comeau.
Oui,
voilà.
Alors, il était très mignon.
Voilà, il était évidemment très mignon, bien que ce livre-ci ne tombe pas dans le piège du mignon, et c'est justement une de ses grandes qualités. Bon, enfin, il était très mignon, ce Knut. Sa mère l'avait rejeté, sa mère Tosca, et il est mort noyé en 2011. Mais c'était devenu un étendard pour les associations de droits aux animaux. Et alors, cette histoire de Knut, je lisais, ne tombe jamais dans le mignon, parce que l'auteur se place vraiment à hauteur d'animaux. Il y a une écriture extrêmement sensuelle, une attention aux saisons, à la nature, un regard évidemment plein d'humour sur leurs amis, les humains, et leur vie parmi les humains. Et c'est plein de délicatesse et de sentiments fraternels vis-à-vis de nos cousins poilus. Alors, tous ces ours disent « je », ce qui est un petit peu étonnant. Enfin, il y en a un qui prend un certain temps à dire « je », mais enfin, voilà, les trois ours disent « je », ce qui fait craindre l'effet kawaii, et puis, donc, il n'adviendra pas. Elle parle même, elle utilise, elle emploie vers la fin du livre le mot « kawaii » pour expliquer en quoi ça peut être un écueil pour les ours. Et alors, ils vivent parmi les humains et se comportent comme des humains tout à fait normalement, et tout le monde trouve ça normal. Ils écrivent, la grand-mère est d'ailleurs auteure d'une autobiographie à succès. Ça commence très drôle, de manière très drôle, avec des comparaisons entre vie animale et humaine, l'ours qui se rend à une conférence, qui participe à une conférence, qui la compare évidemment à un cirque, les problèmes des rapports Est-Ouest, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça se passe, l'essentiel de l'histoire se passe en ex-RDA et puis à Berlin après la chute du mur. Les rapports entre Est et Ouest qui sont un petit peu comme les rapports entre théâtre et cirque, voilà, de snobisme et d'admiration mêlés. Et donc ça commence de manière très drôle et puis on glisse petit à petit vers autre chose qui décrit non seulement l'histoire récente de l'Europe, mais soulève des questions de filiation, de quête des origines, de langage aussi. Il y a une très jolie réflexion sur le langage, la manière dont on parle et la manière dont on arrive à dire « je », voilà, qui fait de ce livre dont l'idée de départ est assez fantaisiste, un très bon livre qui s'adresse même à des gens qui ne sont pas particulièrement sensibilisés à la cause des animaux.
Bon.
Et si tout ce que je dis vous fait penser à Recherche d'un chien de Kafka, c'est normal. Elle en parle également dans le livre.
Le livre, c'est Histoire de Knut de Yoko Tawada, traduit l'allemand par Bernard Banoun. C'est aux éditions Verdier. Alors, on change de registre, a priori. En tout cas, le titre le laisserait penser. Le motel du voyeur, à moins que le voyeur soit, je ne sais pas, un caribou peut-être.
Il n'est pas très mignon.
Gay Talese, aux éditions du Sous-Sol. Et je cherche tout de suite le nom du traducteur et de la traductrice.
Michel Cordillo et Lazare Bitoun.
Bravo. Bravo. Très bon point pour Elisabeth Philippe.
Merci Arnaud. Donc c'est le motel du voyeur, c'est donc une enquête de Gay Talese, ça va sortir je crois le 5 octobre. Gay Talese, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est donc
moi, je connais pas.
Ah, c'est un grand monsieur de 84 ans.
Ben oui, écoutez.
Et ben c'est l'occasion de le connaître. Voilà, c'est donc ce monsieur, Gay Talese, est un des éminents représentants du nouveau journalisme. Donc il a 84 ans aujourd'hui, il a travaillé pour le New York Times, pour Esquire. Il est connu pour aussi bien pour ses costumes toujours impeccablement coupés, il est très très chic, que pour ses enquêtes également impeccables. Je pourrais citer celles qui ont été traduites en français, Sinatra a un rhume, toujours aux éditions du Sous-Sol, c'est un recueil d'articles, c'est formidable, moi je conseillerais de commencer par ça. Et Ton père honorera, qui est une plongée dans la mafia new-yorkaise, ou également La femme du voisin, une enquête sur la sexualité des Américains. Et c'est justement au moment où il écrivait cette enquête qu'il a reçu une lettre anonyme d'un propriétaire d'hôtel, d'un motel à Aurora, donc dans la banlieue de Denver, dans le Colorado. Et ce tenancier un peu étrange, une sorte de Norman Bates, le héros de Psychose, mais en un peu plus sympa.
C'est pas dur.
C'est pas dur, mais tout de même assez spécial, puisqu'il lui écrivait dans cette lettre, voilà, je suis propriétaire d'un hôtel, j'ai percé des trous dans les plafonds de certaines chambres, et j'observe mes clients faire l'amour à travers ces fausses grilles d'aération, donc dans une dizaine de chambres. Je pense que j'ai des informations qui pourraient vous être utiles pour votre enquête donc sur la sexualité des Américains. Il est cet homme, donc ce propriétaire d'hôtel, dit à Gay Talese, en revanche, voilà, je veux rester anonyme puisque j'encours des poursuites. Donc Gay Talese réfléchit, c'est très croustillant, c'est très alléchant, mais voilà, il a une éthique, il doit donner les noms des personnages dont il parle, puisque représentant du nouveau journalisme, c'est aussi le représentant de cette narrative non-fiction, de ce qu'on appelle la littérature du réel. Donc il a besoin d'étayer ce qu'il dit par des faits réels et notamment par les noms des personnages. Le tenancier de l'hôtel, du motel, invite Guétalis à venir observer, découvrir son, ce qu'il appelle son laboratoire d'observation, donc son grenier qui surplombe les chambres, voilà, d'où il observe les ébats et les étreintes de ses clients. Donc Guétalis, finalement, y va. Et il va même expérimenter le laboratoire d'observation. Alors là, on a une scène géniale. Donc Guétalis, comme je le disais, est toujours très très bien habillé et adore les cravates de soie. Quand il se penche pour regarder un des couples en plein coït, la cravate de soie rouge se prend dans la grille d'aération et donc il manque de faire découvrir le tenancier, voilà, de que tout soit découvert. Donc c'est une scène assez amusante. Bon, au-delà de l'aspect très cocasse et assez fascinant, assez intrigant de tout ça, qu'est-ce que ça raconte le motel du voyeur? Déjà l'histoire d'une obsession, mais ça c'est fascinant en tant que tel. Parce que ce qu'il faut dire aussi, pardon, dire, c'est que le voyeur ne se contente pas d'observer, il note scrupuleusement tout ce qu'il voit. Et il pense faire œuvre de sociologue. Il dit, voilà, moi en tant que voyeur, vraiment une espèce d'encyclopédie, un peu à la Buffon, des mœurs sexuelles de l'Amérique. Et même, il le dit carrément, j'observe l'Amérique. Bah oui, tout simplement, toute simplicité.
Un éminent sociologue américain qui avait fait ça avec les Pissotières, hein.
Oui, puis c'est lui, il pense s'inscrire et même faire mieux que Kinsey ou tous ces sexologues en disant, moi au moins, les gens que je regarde, ils sont pas volontaires, ils sont pas forcés, ils savent pas qu'ils sont observés.
Donc c'est pour de vrai.
Donc il note tout, la corpulence, la taille, le poids, les différentes positions, etc. Il note tout. Et donc, Guétalis insère les notes du voyeur au sein de son livre. Donc on a un livre dans le livre et à travers les notes du voyeur, en fait, se dessine une espèce de portrait de l'Amérique, l'Amérique un peu des banlieues, de la périphérie, à travers ce que le voyeur voit. Nous, on voit en tant que lecteurs l'évolution de l'Amérique, les vétérans qui rentrent de la guerre du Vietnam, qui sont blessés, amputés, et lui les observe faire l'amour et est totalement révolté par les blessures infligées à ces hommes. On voit, par exemple, l'augmentation du nombre de fellations qu'il attribue peut-être à la sortie de gorge profonde, l'augmentation des couples interraciaux. Donc voilà, et ce qui est formidable, c'est que nous, évidemment, le lecteur est à son tour en position de voyeur. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça. Alors le livre, à sa sortie aux États-Unis en janvier, a été très controversé, puisque Guétalis est connu pour le sérieux de ses enquêtes. Or là, le Washington Post a relevé des erreurs factuelles dans le livre, notamment des erreurs de date, qui pourrait paraître passer pour des détails. Et en même temps, moi, je trouve que le fait même qu'il y ait cette erreur, qui est pas très grave, qui a pas d'incidence réelle sur la teneur même du livre, je trouve que ça pointe justement tout ce qui fait l'intérêt de ce livre, à savoir qu'on est toujours sur comme ça une espèce de ligne de crête entre la fiction et le réel, toujours dans une espèce d'ambiguïté morale, puisqu'on lit quand même des choses qu'on ne devrait pas lire. Thalys écrit des choses qu'il n'aurait pas dû écrire. Le voyeur voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Enfin bref, c'est toute cette ambiguïté. Et je trouve que le fait qu'il y ait eu cette controverse, ben voilà, met l'accent sur cette ambiguïté qui est vraiment qui fait le sel de ce roman, enfin de ce livre, pardon, de cette enquête qui est quelque chose, ouais, de jamais lu.
Elisabeth Franck-Dumas, vous l'avez déjà lu celui-ci ?
Je l'ai jamais vu. Il y avait eu un extrait dans le New Yorker. Voilà. Donc je m'étais dit extra. Enfin, voilà. Je pense que c'est le genre de papier dans le New Yorker où la semaine où on reçoit le magazine après, enfin, pour les gens, les amis outre-Atlantique ou que sais-je, est-ce que tu as lu ce papier ? Enfin, voilà. Il y a des articles comme ça que tout à coup tout le monde s'envoie et tout le monde se fait lire. Donc c'est complètement fou. D'ailleurs, je me suis immédiatement demandé, quelqu'un a dû acheter les droits ? Non,
pour en faire. Oui, je crois Sam Mendes.
Ah oui.
Ouais. Et d'ailleurs, il y aura un scoop dans Vanity Fair du mois d'octobre. Je fais le.
Bah, oui, bah, vous avez raison. Ouais. Et en plus, c'est une très belle couverture pour les éditions du Sous-Sol qui joue le côté voyeur jusqu'au bout, puisque il y a un trou percé dans la couverture.
Il y a plein de photos à l'intérieur.
C'est vrai. Ouais. Il faisait des photos. Ou c'est un travail photographique autour de thématique. Ah oui.
Il y a des photos du motel, des photos du voyeur.
Bon, eh ben. Ça s'appelle donc Le motel du voyeur de Guétalis, aux éditions du Sous-Sol.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature, avec encore une fois un livre très volumineux, celui de Nina Yargekov, près de 700 pages, intitulé « Double nationalité », publié chez POL. Alors vous n'avez pas forcément de chance, Elisabeth Franck-Dumas, c'est que vos camarades en disputent. La dernière fois, Philippe Chevillier Vous avez contraint à lire Le pavé de Marlon James, 850 et quelques pages.
Oui, je disais hors antenne que ça devrait être un sujet du petit salon. Pourquoi est-ce que les livres sont si gros? Pourquoi est-ce que les écrivains utilisent autant de mots? Voilà, là c'est
pas
vrai
tous.
Que...
Ouais. Bon, on va en parler tout de suite après cette jolie chanson.
Un enfant qui pleure, je suis un soldat qui chante. À la frontière de l'amour et du cœur, j'ai vu passer la violence. Il y a des larmes de toutes les couleurs, les rôles n'ont pas d'importance. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis un français créole qui devient un étranger parisien. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien. Je suis partout où les hommes ont besoin de parler à quelqu'un. Je suis une ville égyptienne, je suis un faubourg de Rome. Les murs sont faits de silence ou de haine, Berlin ou Jérusalem. Écoutez bien le message d'un homme qui vous dit que je vous aime. Je suis un juif espagnol, je suis un grec arménien, je suis un français créole qui devient un étranger parisien. Je suis un juif espagnol.
Enrico Macias, c'est pas n'importe quelle chanson, juif espagnol, on va comprendre pourquoi. Parce qu'Enrico Macias, c'est à peu près la seule chose dont se souvient l'héroïne du roman de Nina Yargakov, à qui le livre parle, hein, on pourrait dire. Le livre s'adresse à cette héroïne, qui se retrouve donc un beau matin dans un aéroport. Aéroport parisien, avec un diadème sur la tête, deux passeports dans son sac, sans savoir ce qu'elle fait là. Deux passeports, c'est aussi ce que possède l'écrivaine franco-hongroise, qui signe là son troisième roman, que j'ai survolé, je vous l'avoue, la semaine a été chargée, et je n'ai pas lu ces 700 pages avec sans doute l'intérêt qu'il faudrait, et que va nous expliquer Elisabeth Philippe. Qu'est-ce que ce roman vous a donc fait que vous ayez obligé, imposé, Elisabeth Franck Dumas, à sa lecture, et on va savoir ce qu'elle en pense dans quelques minutes.
Alors, il m'a fait rire, ce roman. C'est déjà pas
c'est
mal.
Pas mal.
Hein,
pas mal.
Surtout en ce moment. Et surtout parce qu'il s'empare d'un sujet avec lequel on pense pas forcément
rire beaucoup.
L'identité, qui est un petit peu la marotte, hein, actuellement, et qui, je pense, on va en souper beaucoup de l'identité pendant cette campagne présidentielle qui s'annonce, est déjà là, l'identité heureuse d'Alain Juppé, nos ancêtres les Gaulois, de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et Nina Yargakov s'empare de ce sujet moyennement drôle, ou traité de façon moyennement drôle par nos amis les politiques, et elle en fait quelque chose d'absolument hilarant et en même temps très intelligent. Alors, Nina Yargakov, simplement pour la resituer, donc oui, elle est franco-hongroise, on sait finalement peu de choses d'elle, si ce n'est les détails qu'elle distille dans sa petite bio sur le site de son éditeur, à savoir qu'elle aime la tarte au citron et que pour elle, le code civil est son œuvre de fiction préférée. Donc voilà, ça donne le ton déjà de cette fantaisie qu'on va retrouver tout au long de ces 700 pages, ce qui est une forme de tour de force. Ça pourrait devenir un peu lassant, ça l'est jamais, parce qu'elle arrive toujours à rebondir. Il y a une telle inventivité dans l'écriture que on est totalement pris. Alors, donc vous avez raconté le début, Arnaud. Donc effectivement, l'histoire de cette jeune femme amnésique qui se retrouve dans cet aéroport avec deux passeports, l'un français, l'autre yazige.
Oui.
Alors, la yazigie, me direz-vous, qu'est-ce que c'est?
C'est un peu la Hongrie.
C'est un peu la Hongrie, c'est donc un petit notamment pays d'Europe
langue.
De l'Est que les Français ne savent pas situer sur une carte. Elle parle d'un petit pays pourri, qu'elle est d'origine pourrie.
Mais voilà. Avec une langue très particulière,
une langue mathématique. Alors, étant donné son allure, lorsqu'elle se voit dans le miroir de cet aéroport avec son diadème sur la tête, elle est maquillée comme une voiture volée avec des sandales compensées, enfin, une catastrophe. Le premier indice qu'elle a, c'est qu'elle se dit « je dois être une prostituée ».
Ou alors c'est la fashion Fashion Week.
Où c'est la Fashion Week? On ne sait pas. Mais elle penche plutôt pour l'option prostituée. S'ensuit toute une espèce de délire sur la façon correcte de parler des prostituées. Enfin, c'est extrêmement drôle parce que ça ajoute tout ça avec le politiquement correct, voilà, c'est très très drôle. Et puis elle caresse l'espoir quand même d'être peut-être un agent double, une espionne, et finalement elle va découvrir que non, elle est traductrice. C'est un peu moins fun.
Bah c'est donc un voilà. Tellement et on va plus apprendre... beau métier.
Pardon ?
C'est un tellement plus beau métier.
Oui, mais elle trouve pas ça très chic.
Nous ici les traducteurs et les traductrices.
Elle trouve pas ça très chic, tout comme elle ne trouve pas très chic le fait que ses parents n'aient pas été des réfugiés politiques, puisqu'elle fait un classement comme ça de la meilleure immigration. Donc top 1, médaille d'or, c'est le réfugié politique. Médaille d'argent, le réfugié de guerre. Et médaille de bronze, le réfugié climatique. Les migrants économiques étant vraiment hors podium, hors classement, c'est vraiment la loose. Voilà. Alors elle va en fait, tout l'intérêt de ce livre, hormis toutes ces petites inventions et blagues qui sont généralement très drôles, c'est la quête dans laquelle elle se lance, donc une quête identitaire, savoir qui elle est. Est-ce qu'elle est plutôt française ou plutôt yazige, plutôt donc française ou hongroise. Donc le roman lui-même est double. Alors, il y a déjà ce côté schizophrène, puisque tout le roman est écrit à la deuxième personne du pluriel, vous, comme les plus grands romans de l'Oulipo. On pense évidemment à Calvino, on pense à Pérec ou à feu Michel Butor, voilà, disparu récemment, la modification. Donc voilà, ce vous introduit déjà cette notion de dualité, de schizophrénie, et on le retrouve également dans la structure du roman, qui lui-même est double, puisqu'il y a une première partie qui se situe en France, et la deuxième partie en Hongrie. Et quand elle est en Hongrie, la France devient la Lutringie et Paris devient Écluse. Et ce qui je trouve est formidable dans ce livre, donc c'est la façon dont elle s'empare de ce thème. Et finalement, sous couvert de quelque chose de très fantaisiste, de très fantasque, de très loufoque, elle aborde le passé colonial, elle aborde la crise des migrants, elle aborde la crise de l'Europe à travers des réflexions sur la guerre d'Algérie, sur les migrants en Hongrie, bloqués en Hongrie, la politique menée par Viktor Orban. Et tout ça se retrouve dans cette somme, et elle a une façon finalement de désamorcer et de dégonfler ces espèces de baudruches médiatiques qui sont toutes ces polémiques, ces controverses assez rances qui envahissent malheureusement l'espace. Elle les dégonfle avec un humour et une intelligence, je trouve, assez formidable. Et en ça, c'est un livre assez inclassable et très salutaire, je trouve, en ce moment.
Alors, nous allons savoir maintenant si Elisabeth Fondumat vous en voulez. Elisabeth Philippe d'avoir lu « Double nationalité » de Dina Yargakov.
Comment en vouloir à Elisabeth Philippe de m'avoir demandé de lire un livre qui commence par « Il y a quelque chose qui cloche aux Galeries Lafayette ».
Oui, c'est vrai que ça commence fort. Hein.
Ça commence fort, c'est très drôle. C'est vrai que c'est très drôle, elle vous happe avec ça. Ça n'est pas que drôle, mais c'est très très drôle. On lit des phrases comme « Dans vos veines coule le sang d'un peuple privé de thalassothérapie » qui m'a fait éclater de rire. Il y a une fausse naïveté, il y a un mélange tragicomique, il y a une fausse naïveté constante qui rappelle... tous les plus grands satiristes du 18e, le personnage habite boulevard Voltaire, cite Voltaire à un moment, et je pense que la filiation est évidente. Et bon, comme les plus grands satiristes, elle fonctionne évidemment par exagération. Plus c'est gros, plus ça marche. C'est vrai que le livre est très gros, il y a quelques longueurs, mais je suis d'accord avec Elisabeth Philippe sur le fait qu'à chaque fois on se dit... Dans quoi est-ce qu'elle s'embarque? Là, je me demande comment elle va arriver à rebondir. Et il y a toujours un petit... Voilà, au moment où on pourrait se dire, bon, maintenant, ça suffit. Eh bien, elle rebondit toujours. D'ailleurs, pas forcément avec quelque chose de comique. Il y a une réflexion très fine, évidemment, en arrière-plan qui se dessine sur le rapport aux origines, sur les deuxièmes, troisièmes générations d'immigrés désormais en France, sur les relations amour, haine, supériorité, infériorité, les hiérarchies. C'est excellent ce passage sur les d'ailleurs elle écrit en majuscule réfugiés politiques et en tout petit caractère migrants économiques pour qu'on comprenne bien. Il y a des jeux de langage et toute une réflexion, c'est pas par hasard qu'elle est traductrice, autour du langage. Est-ce qu'on revient dans son pays, dans le pays d'origine de ses parents? Est-ce qu'on y rentre? Est-ce qu'on y vient? Est-ce qu'on y va en vacances? Voilà, à chaque... Et je dirais que c'est d'une grande finesse, également sur les histoires qu'on se raconte, sur les histoires qu'on raconte, sur son propre passé. Quand elle décide qu'elle est yazige, elle se dit non, je suis yazige, quel dommage, j'aurais pu être française, c'est tellement française, c'est tellement plus chic, c'est tellement plus classe. Et puis finalement, non, en fait, elle est française. Oh, c'est un peu nul, c'est pas intéressant, j'aurais pu avoir cette exode. Enfin, voilà. Et c'est très bien fait. C'est très sur également les attentes qui pèsent sur c'est les populations immigrées qui arrivent en France, qui devraient devenir championnes de foot ou grands chercheurs. Mais ce qu'il y a de plus réussi, c'est le fait que le personnage principal soit amnésique, la narratrice soit amnésique, enfin c'est la deuxième personne, mais elle est amnésique et ça dit quelque chose du rapport totalement convulsif et malade. Non seulement elle est amnésique, mais elle perd régulièrement la mémoire. C'est-à-dire que je ne sais plus combien de jours finalement elle peut conserver sa mémoire.
23.
Voilà,
oui,
et puis
compte,
hop,
oui.
Elle oublie à nouveau. Oui. Et en fait, c'est très juste, je trouve, qu'un personnage amnésique obsédé par son passé, obsédé par la commémoration, c'est un petit peu aussi ce qu'on est devenu. Elle évoque évidemment les énormes trous noirs dans l'histoire de France. La guerre d'Algérie figure quand même en place importante. D'ailleurs, elle se permet plus c'est gros, plus ça passe. Mais voilà, elle arrive au métro Charonne, elle essaye de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que cette plaque ? Et elle décide qu'elle n'est pas française, parce que serait-elle française, elle aurait vraiment honte de ce que les Français ont fait en Algérie. Ça l'empêcherait, voilà, elle serait écrasée par cette honte. Et donc, c'est sa manière, elle, de deviner très sûrement qu'elle ne doit pas être française. Bon, voilà. Enfin, c'est très malin, c'est très intelligent, et je pense que c'est un personnage extrêmement, enfin, qui ramène extrêmement de, énormément de thèmes contemporains qu'on a besoin de, en effet, qu'on a besoin d'aborder en ce moment. On a besoin de lire ce livre particulièrement en ce moment.
Oui, c'est très intéressant ce que vous disiez sur le besoin de se raconter des histoires et comment on compose son propre récit. Et tout le texte est aussi sous-tendu par des références à Paul Ricoeur, parce que derrière cet humour et cette fantaisie, encore une fois, il y a vraiment du sens, du contenu, du fond. Et voilà, sur la façon dont, si on ne passe pas par le récit, par le médium de la narration, nos vies sont des chaos, et le fait d'écrire, de passer par la narration, permet de le récomposer, de leur donner du sens. Et pour rebondir sur les choses très drôles qu'il peut y avoir dans ces pages, donc l'héroïne passe par toute une série de tests pour savoir qui elle est. Donc vous parliez de ce qu'elle ressent devant la plaque de commémoration de Charonne, mais elle se repasse aussi, par exemple, la victoire de 98 au foot. Et comme elle est pas transportée de joie, elle se dit que non, elle doit pas être forcément française. Donc voilà, il y a tous ces tests, évidemment. Donc c'est aussi une façon
de... En revanche, à l'écoute du discours de Malraux sur Jean Moulin, alors là,
elle est libre.
En fait, il faut garder de la France Robert Badinter et Malraux.
Voilà, c'est ça. Et elle joue évidemment avec tous les clichés, toutes les représentations. Elle se dit, finalement, oui, puisque moi aussi, j'aime bien tremper mon croissant dans le café. Forcément, je suis française. Et vous parliez de la guerre d'Algérie, mais côté Hongrie, c'est aussi très, très virulent et critique. Là, nous, il y a l'angle mort un peu de notre rapport à l'histoire, de notre rapport à la guerre d'Algérie. C'est un peu l'excès inverse côté hongrois. C'est cette espèce d'obsession pour le traité de Trianon de 1920. Donc, pareil, il y a des pages et des pages sur ce traité. Et elle essaye aussi, pour justement essayer de voir de quel côté elle se trouve, elle va... aller jusqu'à l'extrême, en allant notamment sur des sites nationalistes, aussi bien les sites français nationalistes, là elle les trouve moches et ridicules, et pareil pour les nationalistes hongrois, où elle se dit faire le salut nazi devant une affiche de Britney Spears, ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y a énormément de choses, c'est très drôle. On peut aussi, et ça c'est pas négligeable, augmenter un peu notre petit lexique de juron. Je pourrais vous en citer un. Sale petit fœtus de glaire, raclure de glandes sudoripares, que des bambous acides écartèlent votre œsophage. Donc elle s'invective beaucoup, elle s'engueule beaucoup parce qu'évidemment elle fait énormément d'erreurs, elle commet énormément d'erreurs de parcours. Donc voilà, il y a une langue folle, une inventivité folle et en même temps énormément de distance, de recul et une réelle pertinence du propos.
Bon, vous faites une petite lecture, non, Elisabeth Franck-Dumas? Non, vous avez encore des choses à dire, mais vous voyez compulsé.
C'est drôle, le seul regret finalement que j'ai. Alors, double nationalité, on voit bien avec les... D'ailleurs, je me suis demandé à quel moment elle a écrit ce livre, à quel moment elle a terminé ce livre, parce qu'il est évidemment question des débats
de l'année passée. Oui,
bien sûr.
La question de la double appartenance.
J'ai presque regretté que ça soit... qu'on le sent. On le lit, on le devine, et qu'en fait, à un moment, ça arrive, elle entend à la radio ce qui est en train de se passer, elle s'offusque, elle s'en émeut. Je me dis, tiens, on avait déjà compris. Voilà. Mmh. Mais
elle détourne un peu cette réalité-là, puisqu'en fait, ce qu'elle entend à la radio, c'est l'interdiction de la binationalité. C'est ce qui l'a fait quitter la France et partir en Yazigi.
Ouais.
Donc, mais c'est pas trop appuyé, pas trop insistant.
Ouais, mais c'est la seule, parce qu'on voit, enfin, on voit bien dès le début. Mais je veux bien,
alors. Un peu de lecture.
Que choisir? Début, la première page est super. Il y a quelque chose qui cloche aux Galeries Lafayette. Vous examinez l'éclairage, détaillez les vendeuses, humez la température. Parmi les clients, quantité de touristes. On doit être au printemps ou en été pour qu'ils soient si nombreux. D'ailleurs, votre tenue en apporte confirmation. Vous êtes vêtu d'une jupe courte et d'un chemisier sans manches. Vous voyez des parfums, des mascaras, des laits pour le corps et des saucissons. Pris isolément, chaque élément vous semble d'une normalité irréprochable. Pourtant, l'ensemble est comme atteint d'une déformation étrange et très disgracieuse. Le plafond est trop bas, les étiquettes posées de travers, la musique de fond dissonante, et puis le saucisson. Vous ne sauriez le démontrer d'une manière résolument scientifique, cependant vous avez l'intuition qu'il n'est pas réellement à sa place au rayon parfumerie. Le mystère des systèmes holistes, le tout est plus que la somme de ses parties, l'atomisme logique est une impasse intellectuelle. Vous levez les yeux à la recherche de la coupole aux vitraux et vous comprenez. Vous n'êtes pas aux Galeries Lafayette, mais dans la boutique détaxée d'un aéroport. Zut, vous aviez confondu. On admettra à votre décharge qu'en termes d'ambiance, cela se ressemble un brin. Il y a quelque chose de cono aussi, je trouve, dans le ton, dans la légèreté, dans sa manière de s'amuser jusqu'au bout. Voilà.
Ouais, moi, je vais inviter franchement à passer plus de temps et passer le temps qu'il faut pour savourer chaque page de Double Nationalité, ce livre de Nina Yargekov paru aux éditions POL. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, et on commence, Lucille Comeau, par un rappel sur le jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse.
Alors voici la question. Bogdan Mirița a été le scénariste d'une comédie populaire roumaine sur le Père Noël, dont le titre n'a pas besoin d'être traduit. Quel est ce film ? Et la réponse est Ho Ho Ho. J'ai bien dit ?
Ah ouais, c'était surtout une très très bonne question que vous avez imaginée là. Voyons voir pour ce soir. Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour une exposition. Last Water War, Ruins of a Future, d'Emeric Luisset. C'est à découvrir jusqu'au 4 décembre à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Alors,
c'est
en attente de votre question, Lucille.
C'est vraiment beaucoup moins drôle,
vous
allez être déçue. Emeric Luisset a photographié les ruines d'une cité antique en Mésopotamie nommée Girsu, riche cité, haut lieu religieux. De quelle province était-elle la capitale ?
C'est moins drôle, mais c'est intéressant.
Un peu plus question pour un champion.
Bon, votre réponse, vous êtes un champion ou une championne. Vous nous l'envoyez, ainsi que vos coordonnées postales, bien sûr, à un seul mail, auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Franck-Dumas, Elisabeth Philippe et, non pas Elisabeth Comeau, mais Lucille Comeau. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire, podcast aussi séparé pour le petit salon de Lucille Comeau. Dispute possible grâce à Lucille Comeau. Ça fait 3 fois que je vous dis votre nom en 30 secondes. Daniel Chinot, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Spinot qui conçoivent et préparent cette émission à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. En compagnie de Philippe Chevillier et René Solis, nous parlerons de rêves et folie sur un texte de Georg Trakl, mise en scène de Claude Régis, c'est en ce moment à Nanterre, avant de partir en tournée. Et puis Vania, d'après Oncle Vania, d'Anton Tchekhov, mise en scène par Julie Deliquet, c'est au Vieux Colombier, à la Comédie Française. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'Interlope, cabaret de Serge Bagdasarian, et puis Cartographie, l'Atlas de l'Anthropocène, mise en scène et interprétée par Frédéric Ferrer, c'est au Théâtre du Rond-Point. Tout cela, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.